Bon, c'est bon les mecs, là, ça tourne là, parce que je suis mais méga chaud, quoi. Vous savez, parfois dans la vie, des débuts d'une relation sont parfois compliqués, un petit peu chaotiques. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas la possibilité de construire ensemble des relations solides et durables. C'est ce qui a existé un petit peu avec Microsoft et Linux au début. Les dernières années ont été un petit peu tumultueuses, mais finalement, avec les annonces et les changements de stratégie de Satya Nadella, on voit qu'on a la possibilité entre Microsoft et Linux de faire beaucoup de partenariats et beaucoup de services pour finalement répondre à vos besoins dans le cloud comme dans le data center. Je suis Arnaud Leroux et je suis aujourd'hui avec Stanislas Castana. Bonjour Stanislas.
Bonjour Arnaud.
Alors finalement, Microsoft Love Linux, c'est quoi? C'est encore une initiative marketing de Microsoft?
Alors non, pas tout à fait. Pour être tout à fait pragmatique, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'abstraction de Linux dans les data centers ou dans les systèmes des organisations. Et finalement, les deux systèmes ont leur vie et leur écosystème et leur part de marché. Globalement, aujourd'hui, il ne reste plus que deux systèmes dans le monde, dans les systèmes d'information. C'est Linux d'un côté et Windows de l'autre. On l'a d'ailleurs vu assez récemment lors de la DockerCon 2015, où Mark Russinovich, avec les personnes de chez Docker, ont présenté ce graphe où il montrait effectivement que les deux systèmes cohabitent ensemble. Et le but n'est pas de faire une opposition, mais plutôt de compléter les deux pour répondre à qui, au final, ben, aux clients et aux organisations qui vont utiliser ces systèmes.
Alors, c'est vrai que ce soit un engagement dans la durée. Est-ce que c'est sincère, tout ça?
Alors, oui, c'est sincère. Ça a commencé, en fait, l'histoire, entre guillemets, d'amour a commencé à partir de 2012, où, en fait, Microsoft a contribué, en fait, au kernel Linux, a beaucoup contribué au kernel Linux. C'était donc en 2012. Et en 2012, on a mis pas mal, en fait, de composants de paravirtualisation au sein du noyau Linux afin de bien faire fonctionner les systèmes Linux sur les plateformes Hyper-V, c'est-à-dire notre plateforme de virtualisation pour le data center.
Alors ça, c'était en 2012, hein, on peut voir dans l'article là, mais finalement, depuis, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors en fait, il s'est passé plein de choses. Donc là, c'était une première étape en fait d'adoption de Linux au sein des environnements Microsoft pour bien les faire tourner sur nos plateformes de virtualisation. Nos plateformes de virtualisation ont naturellement finalement évolué vers où? Ben, vers le cloud. Et quand on parle d'Azure aujourd'hui, c'est également de l'Hyper-V derrière avec du Linux derrière. Donc on va dire qu'aujourd'hui, désormais, on est à fond sur la partie Linux pour la partie cloud.
Tu voudrais dire que finalement, ce cloud sera un aphrodisiaque à l'amour impossible, initialement, ou en tout cas compliqué, entre Microsoft et Linux?
Oui, aphrodisiaque ou catalyseur. Aphrodisiaque est peut-être plus joli dans ce thème-là, mais l'idée, c'est effectivement ça, c'est que... Parce qu'on est pragmatique et parce qu'on sait effectivement les organisations utilisent du Linux pour certains workloads et qu'ils utilisent également du Windows et qu'il n'y a pas de raison d'être plus pour l'un ou plus pour l'autre, et bien évidemment nos plateformes de cloud sont agnostiques là-dessus et le but effectivement c'est de faire tourner très très bien Linux en fait sur la plateforme Azure comme la plateforme Hyper-V ou la plateforme Azure Stack prochainement.
Et ben voilà notre tux rhabillé pour l'hiver. Alors au-delà du discours finalement, comment ça se traduit en matière d'action, en matière d'implémentation?
Alors ça se traduit par le fait que déjà qu'on va supporter la majorité des distributions qui peuvent exister en termes de Linux. Donc on supporte par exemple Debian sur Azure, on supporte bien entendu Ubuntu, on supporte OpenSUSE, on supporte Red Hat. Et aujourd'hui on est à 8 ou 9 distributions en fait majeures de Linux qui sont supportées sur nos plateformes de cloud public et puis également de cloud privé.
Alors, c'est en fait, une distribution commerciale ou communautaire?
Il y a les deux en fait. On a bien entendu des distributions très commerciales, je vais en reparler juste après, mais on a également tout ce qui est distribution communautaire ou gratuite. Donc on va retrouver du Debian, on va retrouver du CentOS, on va retrouver du SUSE par exemple, qui sont des distributions effectivement où il n'y a pas un coût à payer à la licence parce qu'il n'y a pas derrière d'organisation entre guillemets de type entreprise éditeur qui revend entre guillemets le logiciel.
Alors là, quelques exemples dans le monde plutôt du commercial maintenant.
Oui, ben en fait, on a des partenariats qui sont extrêmement forts d'un côté avec la communauté Linux au sens large et de l'autre en fait avec des éditeurs logiciels comme Microsoft, mais dans le monde de Linux. Donc les plus connus effectivement, Red Hat, Oracle, Canonical pour la partie Ubuntu et puis SUSE. Donc en fait, ces partenariats, ils vont au-delà simplement d'un aspect technique où on fait tourner leur distribution sur notre plateforme, mais ça va également avec des jointures au niveau, par exemple, des supports. Typiquement, tu peux avoir avec Red Hat un support qui est commun. Alors, commun, c'est réellement, en fait, on a mis des équipes d'Azure avec des équipes de Red Hat dans les mêmes bâtiments. Et du coup, quand le client a un problème sur une VM dans Azure pour Red Hat, eh bien, il appelle un support qui est un support unifié, entre guillemets, entre les deux éditeurs. Pour Oracle, c'est pareil, on a des accords qui font que ben, Oracle, que ce soit ses systèmes d'exploitation Linux ou ces applicatifs sont complètement supportés par Oracle, même si ça tourne sur de la VM Azure ou sur de l'Hyper-V, par exemple, dans le data center. Canonical, c'est pareil, on travaille avec eux depuis assez longtemps et on va même jusqu'à les proposer des moteurs de conteneurs avec eux sur le cloud Azure. Et puis SUSE, là encore, c'est un partenaire historique sur lequel, effectivement, on avait déjà des systèmes de support unifiés où, effectivement, en instanciant une SUSE Premium, on bénéficie automatiquement, en fait, de support pour la VM.
Alors, tu as mentionné le mot de container, hein, effectivement. J'ai vu CoreOS aussi dans les slides. Est-ce qu'on a autre chose qui va un petit peu plus loin?
Ben oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de containers dans le monde du web, principalement des startups, ou du monde du DevOps, pour faire plus large. Effectivement, Docker est une société en fait, qui crée une couche d'API et d'administration de containers, et à l'origine, principalement des containers LXC, donc des containers sur base Linux. Donc, dans le futur, ils vont supporter également les containers Windows, Server et Hyper-V. Et donc, du coup, ben, on travaille énormément avec Docker pour que Docker fonctionne et soit très bien intégré en fait dans Azure. Et bien sous du Docker, hein, c'est du Linux. Hein. Donc au final, derrière, c'est également une partie de l'écosystème Linux qui est parfaitement supportée dans Azure avec Docker. Pour aller plus loin, au niveau orchestration, une société très connue qui s'appelle Mesosphere, qui propose une solution qui s'appelle DCOS, Data Center Operating System, où l'idée est de piloter en fait des clusters de machines ou des clusters de containers avec des technologies comme Mesos, Marathon ou Kronos, et bien là encore, en fait, on travaille avec eux en fort partenariat pour qu'ils s'intègrent au sein de notre solution qui s'appelle Azure Container Service, qui est un des services en fait, d'Azure. Et là encore, derrière, avec des containers Linux en arrière-plan et prochainement dans le futur, des containers Windows ou Hyper-V.
Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, il y a les machines virtuelles, il y a les templates pour encenser les machines virtuelles qui sont prêtes dans Azure, mais finalement, est-ce qu'il y en a déjà des machines virtuelles Linux qui tournent dans Azure?
Alors oui, il y a à peu près un an, on avait 20% de machines virtuelles, donc une sur cinq qui tournaient dans Azure, qui étaient exécutées, qui en fait étaient sur un système Linux. C'était il y a un an. Désormais, on est passé à peu près à 25%. Donc, une machine sur quatre exécutée sur la plateforme Azure aujourd'hui est une machine sur base Linux, quelles que soient les distributions utilisées. Donc là, d'ailleurs, c'était récemment annoncé par notre CTO, qui est Marc Rosinovich, également le développeur de Zoomit, pour les plus connus.
Donc, c'est un amour qui s'alimente de nouvelles preuves tous les jours, c'est ça?
Exactement.
Donc, finalement, vous allez finir par faire votre propre distribution Linux chez Microsoft?
Et bien, en fait, c'est déjà fait dans nos data centers. On a annoncé récemment qu'on utilisait, en fait, pour nos switches, une distribution qu'on s'est packagée, entre guillemets, de Linux pour opérer, en fait, les switches réseau de nos infrastructures, de nos data centers qui hébergent Azure et Office 365. Donc, ce sont des switches pilotés en SDN. Et donc, effectivement, on l'a annoncé à la presse récemment. Donc, on est sur le territoire du Software Defined Networking. Et en fait, ces switches tournent avec des environnements Linux qui sont packagés par nos équipes.
Et donc, Windows, en fait, non, ça ne vous disait pas.
Alors là encore, on était pragmatiques. Enfin, les équipes qui ont conçu ces switches ont été pragmatiques. Ils ont pris ce qui, entre guillemets, fonctionnait mieux ou ce qui avait un historique dans le réseau. Je veux dire, Linux, ça fait des décennies, ça fait quasiment depuis le début, en fait, où ça a vraiment été orienté et packagé dans plein de appliances réseau, firewall, switch, etc. Donc là, réadapter finalement Windows à faire ce type d'opération, ce qui n'est pas son but à l'origine, c'était plus compliqué et on s'est appuyé sur une base qui était solide, qui était reconnue. Donc on n'a pas voulu réinventer la roue juste pour le plaisir de mettre du Windows dans un équipement. Là encore, on était pragmatique, comme le sont nos clients quand certaines fois ils prennent du Linux versus du Windows.
Donc, pas de distribution Linux Microsoft?
Annoncé? Non, parce qu'en fait, on a déjà fait ça il y a très longtemps. C'était pas du Linux, c'était un Unix, ça s'appelait Xenix. Donc, on va pas le refaire. Cette distribution de Linux pour le Switch, en fait, est une distribution privée pour nos data centers. Donc, non, on n'a pas prévu de vendre du Linux sous notre marque, entre guillemets.
On ne sait jamais de quoi demain peut être fait. Exactement. En tous les cas, en matière d'adoption de Linux pour les organisations et de Linux et Azure en même temps, qu'est-ce qu'on fait pour aider les organisations et les IT pros dans ce domaine-là?
Bah, tu vois bien qu'avec l'avènement du cloud et puis le fait qu'il y ait effectivement du Linux et du Windows dans les data centers et dans les systèmes d'information des organisations, il faut à un moment également avoir des professionnels capables d'appréhender les technologies cloud plus les technologies des systèmes d'exploitation. Donc faire des certifications sur le monde Microsoft, ça on sait le faire depuis déjà la nuit des temps quasiment, sur nos systèmes et là récemment sur nos clouds. Ce qui est peut-être nouveau, c'est qu'en fait on a annoncé une certification pour Linux sur Azure. Donc une certification bicéphale où en fait, d'un côté, il y a besoin d'avoir une connaissance théorique et technique de la plateforme de cloud Azure, et de l'autre, une connaissance théorique et technique également, je dis toujours théorique pour une certification, théorique et technique de l'environnement Linux, du système d'exploitation. Et donc, Microsoft a annoncé, en fait, conjointement avec la Linux Foundation, une certification qui s'appellera en fait certification Azure pour Linux pour Azure, où l'idée en fait ce sera d'avoir en fait une double certification, une certification liée directement à l'infrastructure Azure, plus la certification liée au système d'exploitation Windows, et cette certification Linux. Et Linux proviendra bien entendu de la Linux Foundation. Voilà. Donc en fait l'idée c'est d'avoir deux certifications qui assemblées ensemble en fait en font une seule et qui va garantir aux organisations en fait d'employer des personnes ayant des compétences sur Linux et sur Azure.
Parfait, merci Stanislas. Propose qu'on concrétise ça encore plus en allant regarder avec une petite démonstration comment on met ça en œuvre.
Eh bien écoute, petite démonstration vraiment très rapide, parce qu'il y a plein d'autres sessions dans ce site web où vous pourrez en voir. Donc tu vois ici, je suis sur le portail d'Azure. Sur le portail d'Azure, eh bien simplement quand je veux instancier une machine Linux, je peux aller en fait dans le marketplace. Et là tu vois que j'ai tout un ensemble de distributions qui sont faites, alors avec certaines des extensions, certaines distributions Linux. Donc si je veux par exemple du Red Hat, eh bien je vais taper Red Hat. Et là j'ai directement mes instanciations de VM. Je peux chercher de l'Ubuntu. Donc en gros, on peut installer quasiment tout ce qu'on veut. Tout est déjà disponible sous la forme d'images prépackagées. Prépackagées par l'éditeur en général, donc que ce soit Red Hat ou que ce soit SUSE ou Ubuntu. On a les dernières versions disponibles, qu'on soit en long terme support pour par exemple les Ubuntu. On peut également avoir du Debian. Donc ça c'est. Donc on voit les dernières versions ici. Après. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà d'une distribution packagée simplement avec un OS, on a également des applicatifs qui sont prêts à l'emploi.
Donc imagine qu'on a des piles LAMP déjà intégrées, par exemple.
Exactement. Donc, si tu cherchais LAMP, par exemple, eh ben, tu vas trouver des choses ici qui sont déjà packagées. En fait, quand on descend au niveau des machines virtuelles, donc je vais aller ici sur Compute, tu vas voir qu'il y a les distributions d'OS pures, d'accord, où effectivement, on retrouve du Windows, etc. Donc, tu as quelques exemples. Tu as des templates qui sont faits avec des déploiements complets. Donc là, ce sera par exemple le déploiement d'une solution, d'une appliance virtuelle. Il y a du FortiGet, il y a du SharePoint, etc. Mais si on descend un petit peu plus bas, ici, tu vas retrouver donc les Linux-based, qui sont vraiment des piles applicatifs montées. Donc là, tu vois, là, les systèmes d'exploitation purs. En fait, on a tout ce qui est distribution communautaire, c'est-à-dire des distributions qui intègrent en fait le système plus des couches au-dessus. Donc tu me parlais de LAMP. Effectivement, si je fais une recherche ici sur LAMP, je vais voir toutes les images en fait Linux qui sont prêtes à l'emploi. Donc tu as PrestaShop, par exemple, si j'ai besoin d'un PrestaShop, eh bien là, en fait, c'est une solution open source et tout est packagé directement. Donc j'ai le plan virtuel plus l'applicatif dessus. Pareil, si je veux un WordPress, c'est disponible. Donc il y a plein de piles qui sont fournies par la communauté. Donc en gros, à retenir, c'est que les images Linux sont fournies soit par les éditeurs tels que Red Hat, Ubuntu, etc., soit par la communauté, c'est-à-dire des éditions qui ne sont pas éditeurs, je ne sais pas, CentOS par exemple, Debian, etc. Soit des images fournies par la communauté, mais qui sont des images complètes avec des applicatifs installés, et du coup on peut instancier ce qu'on a besoin. Je te parlais également des containers tout à l'heure. Là encore, si tu as besoin de Docker, tu fais une recherche sur Docker, et qu'est-ce que tu vas voir ici? Tu vas voir plusieurs choses. Donc, la Docker Trusted Registry, bien entendu, Docker sur Ubuntu Server. Donc là, c'est directement une image qu'on a fait avec Canonical et qui permet en fait de déployer une instance d'Ubuntu Server avec le moteur Docker et les outils d'administration Docker dessus. Donc, cette extension Docker et ces moteurs Docker sont installés par une extension en fait par Microsoft qui permet d'automatiquement de prendre une VM Linux et de dire je te rajoute l'extension. L'extension va faire quoi? Elle va venir installer et instancier le moteur Docker et les services applicatifs d'administration de Docker. Et puis tu vois ici des applicatifs, tu vois du Jenkins, du Nginx, du MariaDB, du MongoDB. Et bien là encore, c'est une pile complète open source Linux, donc avec de l'Ubuntu, le moteur Docker dessus et au-dessus des containers Docker et les LXC qui vont contenir les différents composants.
Parfait. Bon, on a vu l'interface graphique pour instancier des machines virtuelles, un petit peu pour des environnements de test, c'est l'interface graphique. Est-ce qu'on a une interface un petit peu en ligne de commande qui nous permet de gérer tous nos machines directement depuis du Linux?
Exactement. Alors, je crois que j'ai une VM ici qui est disponible Linux, je vais m'y connecter. Donc on a un outil en fait qui est basé sur derrière une pile Node.js. Ce moteur d'administration s'appelle Azure CLI. Donc c'est une ligne de commande qui est disponible, qui est multiplateforme. Donc on peut la faire démarrer sous Windows, on peut la mettre sur un Mac OS X, on peut la mettre dans un container Docker. Mmh. Et cette ligne de commande, cet outil d'administration ligne de commande à Azure a quelques dépendances qui sont notre JSAR, mais on peut l'utiliser sur n'importe quelle distribution Linux. Et à partir de là, on peut administrer complètement en fait et automatiser avec des scripts toute la partie Azure, que ce soit créer des machines virtuelles, les démarrer, les instancier, créer du stockage, des réseaux, enfin tout ce qu'on peut faire graphiquement, on peut le faire en ligne de commande avec Azure Cloud.
Magnifique.
À noter, Azure Cloud est également disponible au sein d'un container Docker. Donc, si vous avez du Docker sur votre machine, eh bien, normalement, vous avez une image ici qui s'appelle Microsoft. Donc, dans le Docker Hub,
Azure Cloud.
Vous pouvez donc faire un Docker run Microsoft/Azure-Cli, et automatiquement, ça vous instancie en fait un container Docker avec le moteur Azure Cloud à l'intérieur.
Bien, merci Stanislas pour cette démonstration très concrète. Si je veux en savoir plus,
aka.ms/mvafr, et vous retrouvez l'ensemble de nos cours en français dédiés aux technologies Azure et aussi du Linux.
Merci
et à bientôt.
Ah, et finalement, c'est plutôt confort votre truc Azure. Hein. Moi, j'aime bien. Hein.
Écoute, on est heureux de t'accueillir hein, depuis le temps. Hein.
Ah, bah super, ça me fait bien plaisir, tiens.